Et plus d'une centaine de personnes sont attendues pour échanger autour des suicides dans le monde agricole. On compte chaque année plus de 10 000 suicides dans cette catégorie professionnelle. Et pour en parler, je reçois ce matin le docteur François Chamarbois, médecin du travail. Bonjour.
Bonjour.
Et le docteur Éric Vavlet, médecin chef du travail. Bonjour.
Bonjour.
Donc tous les deux médecins au sein de la MSA, donc la Mutualité Sociale Agricole Loire-Atlantique Vendée. Donc on le disait, plus de 10 000 suicides chaque année en France. En Vendée, qu'en est-il ?
En Vendée, donc les derniers chiffres sont de 97 décès en 2009, donc concernant toute catégorie socio-professionnelle. Le chiffre 10 500 est le chiffre global. On estime à 400, comme vous disiez plus tôt, le chiffre concernant les exploitants agricoles, sachant que ce nombre n'est pas encore bien clair encore. On n'a pas toutes les études.
Donc 97 en Vendée, vous le disiez, c'est un chiffre qui reste stable ?
Plutôt stable pour la Vendée, sachant que dans les pays de Loire, ce chiffre-là a tendance a diminué. Donc la Vendée a un taux supérieur à 13% par rapport à la nationale, par rapport au chiffre national. Donc reste un département très touché par ce problème.
Et donc l'agriculture est catégorie professionnelle la plus exposée. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer ?
Je pense que le suicide est historiquement, c'est vrai, est très lié au monde rural, même si dans l'urbanisation, les choses ont changé. Souvent, ce sont des histoires familiales, ce sont des métiers qui nécessitent beaucoup d'investissements. Souvent, ce sont des héritages familiaux et qu'il faut continuer à faire marcher, je dirais, et ça c'est très lourd et ça peut être très difficilement fait par les personnes, en sachant que la filière a priori la plus touchée serait plutôt les filières bovins qui nécessitent un travail quasiment 24 heures sur 24, qui est une charge très très lourde. Ce sont des gens qui ont beaucoup aussi de charges administratives, de plus en plus. Et donc, tout ceci concourt à une surcharge de travail, un manque de repos et qui fait que ça peut fragiliser en plus d'autres facteurs, bien sûr.
Alors justement, on va venir aux facteurs de risque. Alors, des facteurs qu'on peut découper en trois catégories. Alors, quelles sont-elles ?
Alors, il y a les troubles dits primaires, qui sont d'abord les troubles dits mentaux, troubles psychiatriques, en sachant que la dépression est la plus importante. Il faut dire que 70% des suicides sont liés à une maladie dépressive sous-jacente. Les autres facteurs sont les antécédents personnels de conduite suicidaire. L'impulsivité aussi est un facteur qui fait que l'acte va être davantage fait chez ces personnes-là. Dans les facteurs secondaires, on note l'isolement social, familial ou professionnel, également les événements de vie négatifs, toute rupture dans le travail, rupture dans la vie familiale, font que ces événements fragilisent les personnes. Et enfin, les facteurs tertiaires sur lesquels on ne peut pas agir, c'est le sexe masculin. On sait que dans les décès, il y a trois quarts des morts par suicide sont des hommes. Et l'âge intervient aussi. Certaines périodes de la vie sont beaucoup plus propices à l'acte suicidaire.
Et j'imagine qu'en ce moment, les conditions économiques ne sont pas satisfaisantes non plus. Elles ajoutent au risque.
Le risque financier, les soucis financiers s'ajoutent en plus à tous ces facteurs de risque également.
Alors dans la majorité des cas, 80% les suicidés avaient fait part de leur projet. Alors comment est-ce qu'on peut détecter les signes précurseurs ?
En fin de compte, l'entourage doit être très à l'écoute, très observateur. Tout changement de comportement inhabituel, qui peut être un isolement, quelqu'un qui va moins parler, qui va se refermer sur lui-même, ou quelqu'un qui va changer des comportements, notamment addictifs, quelqu'un qui va s'alcooliser davantage. Toute rupture d'un comportement qui, si il se prolonge au-delà de plusieurs semaines, doit alerter l'entourage et doit faire expliquer, demander, échanger par rapport à ce qui ne va pas.
Donc dans ce cas-là, l'entourage doit essayer d'en parler à la personne concernée.
Exactement. On a toujours peur que parler du suicide risque d'aggraver le risque suicidaire. Absolument pas. Bien au contraire, les gens sont très soulagés quand on peut aborder ce problème avec eux en leur demandant est-ce que vous avez pensé à vous suicider ou à penser à finir ? Est-ce que la souffrance est telle que vous pensez vouloir en finir ? Et c'est vrai d'avoir cette parole soulage souvent les personnes qui vont permettre d'échanger et d'une prise en charge.
Et il est possible de mesurer le potentiel suicidaire des personnes ?
Bien sûr, hein, en fonction donc des facteurs de risque. Le plus grand, c'est bien sûr une dépression, mais également un antécédent de suicide, une conduite suicidaire. Quelqu'un qui s'est déjà, qui a voulu déjà se suicider, présente un énorme risque de récidive. Il y a donc des facteurs de vulnérabilité. Il y a progressivement donc les idées, les scénarios qui peuvent se mettre en place, c'est-à-dire que la personne a commencé, bah oui, je sais comment je vais me suicider, et l'ultime aboutissement, c'est la planification, c'est-à-dire que la personne sait où, quand et comment, c'est-à-dire avec quel moyen elle va vouloir se suicider. Si jamais on est dans cette situation, à ce moment-là, la prise en charge doit être immédiate en faisant appel au médecin traitant, au centre 15 ou au centre hospitalier psychiatrique qui prendra la prise en charge.
Alors justement, je le disais tout à l'heure, vous êtes tous les deux médecins du travail au sein de la MSA Loire-Atlantique Vendée. Quel est le rôle de la MSA ?
La MSA peut avoir plusieurs signalements possibles. Les gens peuvent contacter directement la MSA et sont orientés à ce moment-là vers le service de santé sécurité au travail. Le secrétariat va orienter l'appel vers le médecin qui sera présent sur le site. Et donc le médecin pourra orienter ensuite lui-même vers le médecin traitant, le centre 15, localement le CHS Georges Mazurel, qui sont des structures de soins spécifiques qui vont pouvoir prendre directement les gens en charge. Cet appel peut provenir du malade lui-même, bien entendu, mais souvent de l'entourage. Il y a d'autres endroits d'appel qui sont contactables, comme les centres médico-psychologiques. Donc à la MSA, nous avons surtout un rôle de relais, de faire un lien entre la population agricole en difficulté et lorsqu'il y a un risque aigu, de l'orienter le plus vite possible vers la médecine de soins. Mais au-delà de ça, bien entendu, il y a toute une structure qui peut ensuite prendre le relais du soin. Les gens peuvent de nouveau être en contact avec nous. D'ailleurs, on essaye souvent de rester en contact avec eux, de prendre des nouvelles et de voir l'évolution. Sans oublier notre service social, où là, ils peuvent avoir aussi d'autres prises en charge possibles, d'aide financière ou d'aide autre de prise en charge. Finalement, il y a aussi cette deuxième solution où on est souvent contacté par les travailleurs sociaux eux-mêmes qui sont sur le terrain, qui voient beaucoup de choses, qui participent aussi à cette prise en charge dès le début et qui vont facilement orienter la population en difficulté vers nos services.
Vous avez parlé justement que les personnes peuvent vous appeler. Est-ce que c'est pas un pas qui est parfois difficile à franchir justement ?
Oui, c'est difficile à franchir parce que c'est quelque chose dont on est en difficulté d'en parler. On ne sait pas vers qui se tourner. Même le médecin de soins, c'est parfois il est difficile d'y accéder parce que c'est quelque chose qui ne se soigne pas comme une pathologie, enfin dans l'esprit des gens, comme une pathologie habituelle. Mais il faut vraiment que les gens n'hésitent pas à contacter les médecins en général quand ils sont dans cet état de difficulté. Et le monde agricole en particulier, comme l'a rappelé le docteur Chamarbois à l'instant, est un monde en difficulté du fait de la surcharge de travail, du fait des problèmes administratifs rencontrés et puis de l'état actuel de la société, de leurs finances tout simplement. Donc nous, on est là pour faire le lien et on est toujours prêt à être une aide, même si on reste une médecine de prévention.
Voilà, ce qu'on peut signaler, c'est que vous intervenez également directement dans les entreprises.
Tout à fait. Donc notre action de chaque jour avec dans le service qui associe bien entendu les médecins, mais aussi les conseillers en prévention et notre secrétariat, c'est d'intervenir directement auprès des entreprises. On va à l'intérieur de l'entreprise et puis on peut ainsi, sans stigmatiser, on peut ainsi mettre en évidence le risque psychosocial dans sa grande étendue et d'essayer d'aider les employeurs à le traiter, mais à essayer de le mettre en évidence et de trouver peut-être, la plupart du temps, on essaye en tous les cas une meilleure organisation du travail et donc d'améliorer les conditions de travail des salariés et de diminuer ce risque en sachant que, par exemple, il est souvent associé aux troubles musculosquelettiques, par exemple.
Et ce qu'on peut signaler, c'est que bien pour aider ces personnes, vous suivez des formations particulières en lien avec le suicide.
Oui, notamment la formation dispensée par l'Agence régionale de santé, donc qui propose des formations régulièrement, plusieurs séances par an, de la détection et de la prise en charge de la crise suicidaire.
Voilà, donc merci beaucoup à tous les deux. Et donc je rappelle cette journée santé-sécurité au travail demain à Montaigu autour du suicide dans le monde agricole. Merci beaucoup d'être venu dans nos studios. Bonne journée.
Merci.
Merci.